des cieux.
Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Le Christ, le Seigneur.
Et que vos tendres musettes.
Laissez-nous vous emmener dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg, dans l'année 1833. On est en plein hiver. L'hiver est rude, il est rigoureux, il fait froid. Et on va aller à la rencontre d'un homme, d'un pasteur luthérien, qui s'appelait Johann Heinrich Wichern, et qui a fondé une maison d'accueil pour les enfants défavorisés de la ville, un foyer pour accueillir donc les enfants. Et cet homme, il s'est dit, vraiment les fêtes de Noël, c'est quelque chose que les enfants attendent, c'est un petit peu de chaleur, un moment de convivialité, un moment de réjouissance au cœur de l'hiver, et les enfants sont toujours impatients, nous aussi. Et il s'est dit, comment est-ce que je vais pouvoir les faire patienter d'une manière joyeuse jusqu'à Noël? Et c'est là, il était inventif, il était créatif, il a dit, allez, je vais prendre une roue de charrette, de carriole de charrette, en bois. Et alors, cette roue, pourquoi? Parce que ça va avoir comme la forme d'une couronne. Oui, il faut bien une couronne pour fêter l'arrivée d'un roi. Autour de cette roue, je vais y mettre des branches de sapin, les conifères. C'est intéressant parce que le sapin, même quand il fait froid, même quand tout semble mort, ça reste vert, ça reste verdoyant. Et là, ça symbolise l'éternité. Ah, c'est intéressant. Une couronne recouverte de sapin en signe d'une royauté éternelle. Qu'est-ce qu'on va encore pouvoir y rajouter? Les nuits d'hiver sont de plus en plus longues. Elles sont, et on soupire après le soleil, les rayons de soleil qu'on a en journée. Mais on a besoin, dans cette obscurité, d'avoir de la lumière de Dieu. Mettons des bougies. Allez, 4 grosses bougies. On va commencer le 4e dimanche avant le jour de Noël. Et on va les allumer les unes après les autres. Comme la lumière qui se fait de plus en plus présente dans les longues nuits d'hiver. C'est l'image de la lumière de Dieu qui vient dans nos obscurités, dans notre obscurité, dans l'obscurité de nos vies. Et il y avait même un petit plus, c'est qu'il y avait des bougies, des petites bougies, entre les grosses bougies pour les allumer à chaque jour. Et c'était le petit rituel qui était instauré avec les enfants du foyer, donc d'allumer les bougies les unes après les autres, dans cette attente de Noël, dans cette espérance. Et c'était utilisé comme un outil pédagogique pour les enfants, pour attendre la patience, pour apprendre la patience. Voilà, et donc les enfants purent être émerveillés à la lumière de cette première couronne de l'Avent. Donc ça, c'est l'histoire de la première couronne de l'Avent. C'est une histoire, il y a encore d'autres, c'est un récit, il y en avait peut-être d'autres qui l'ont inventé aussi, mais là, c'est l'histoire qui ressort le plus. Et je trouve que ce monsieur Wichern a eu une très bonne idée, et souvent les symboles nous aident à être enseignés, et c'est comme un petit parcours qui nous permet de réaliser certaines vérités bibliques, spirituelles, d'une manière simple et qu'on peut retenir. Et donc ce qu'on vous propose ce matin, c'est simplement de redécouvrir à travers le symbole de la couronne de l'Avent tout le message de l'Évangile qui nous a été apporté. Alors cette couronne de l'Avent, elle a été dans le nord de l'Allemagne, elle a aussi parcouru les pays nordiques pour la retrouver en Alsace. En Alsace, on aime bien la couronne de l'Avent, ça fait un carton. On aime bien voir la couronne de l'Avent dans son salon. Et c'est une tradition qui nous accompagne encore aujourd'hui. En ces fêtes de Noël, nous nous rappelons que nous n'attendons pas n'importe quoi. Nous n'attendons pas n'importe qui, en réalité. Dieu qui vient à nous, nous qui venons à lui. C'est vraiment ça le temps de l'Avent, c'est attendre la venue de Dieu avec patience et avec espérance. Mais est-ce qu'on l'attend vraiment? là, c'est la question que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble ce matin. L'attendons-nous vraiment? Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tumulte, et on a peut-être un peu du mal à se poser et à se dire, est-ce que je suis vraiment dans cette attente encore de la venue du Seigneur? La période de l'Avent, j'aimerais utiliser une autre image. C'est un peu comme un voyage dans le temps, comme une machine à remonter le temps. Puisque l'Avent nous amène à la fois dans le passé, parce qu'on parle de la venue du Seigneur qui a déjà eu lieu et qui avait été annoncée depuis des milliers d'années. Ça nous projette aussi dans le présent, puisque c'est le Seigneur qui vient à nous dans notre aujourd'hui, par sa présence, par son esprit. Et ça nous projette aussi dans le futur, avec le Seigneur qui va revenir, qui va revenir. Et dans ce parcours proposé à travers le symbole de la couronne de l'Avent, nous allons nous donner un mot d'ordre, et qui est le cœur de ce message, c'est « Dans l'attente, prépare ta rencontre ». Posons-nous la question, quelles sont les meilleures conditions pour favoriser une rencontre avec quelqu'un? Alors vous avez sans doute déjà invité des personnes à la maison. Alors il y a les gens qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qu'on apprécie et qu'on invite à la maison. Alors je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, pour moi, c'est un peu branle-bas de combat à la maison. On essaye quand même que la maison, hop, on va bien ranger, on va essayer de nettoyer pour bien accueillir les amis, pour les mettre à l'aise. Voilà, on va essayer de faire un bon repas, on va essayer de créer une ambiance chaleureuse, un environnement. On va même prendre une douche peut-être, essayer d'être à peu près présentable. Voilà. Donc là, on accueille nos amis, on essaie de les mettre à l'aise. Et là, on essaie de favoriser une rencontre propice pour entrer en relation avec eux. Ce qui se passe, quand on apprend à mieux connaître les gens et qu'il y a une vraie amitié qui se construit, il y a moins ce petit stress, on arrive à être plus naturel. Les amis qu'on connaît, avec qui il y a une relation de confiance, ils vont être moins regardants s'il y a un petit peu de bazar à la maison, on les accueille. Et avec Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu veut une rencontre personnelle, intime. Et plus on va rentrer dans cette intimité avec Dieu, moins cette rencontre va s'attacher à l'apparence. Et plus on s'expose. On ose se montrer tel qu'on est, parce qu'une relation de confiance s'est établie. Et Dieu nous invite, en ce temps de l'Avent, non pas à une rencontre superficielle, mais une rencontre profonde, marquante, déterminante. Une rencontre qui est capable de changer l'orientation d'une vie. Une rencontre capable de prendre, qui nous aide à prendre de la hauteur et de rendre les choses qui d'habitude ont beaucoup d'importance fades, parce qu'on est dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors Dieu a tout mis en place. Il a tout instauré, il a tout organisé. Il n'a pas fait les choses comme un manager, comme un gestionnaire sur ce coup-là, d'une manière détachée. Mais il a tout mis sur la table, tout ce qu'il avait. Et il l'a fait comme un père, comme un ami, comme un époux, quelqu'un qui nous aime profondément. N'aurais-tu pas envie de rencontrer ce Dieu-là, ou de le rencontrer tout à nouveau? Pas une rencontre furtive d'un matin ou d'un soir qui fait du bien sur le moment, mais une rencontre avec sa présence, celle qui demeure, celle qui transforme. C'est ça l'Avent, préparer cette rencontre qui n'a de comparaison avec aucune autre, parce qu'elle nous fait connaître le cœur du roi des rois, le cœur du Seigneur des seigneurs. Je vous propose d'allumer la première bougie. La première bougie, alors j'ai fait un choix sur les différents symboles. Là, la première bougie va symboliser le pardon, le salut apporté aux hommes. Eh bien, pour préparer notre rencontre avec Dieu, on va devoir se positionner devant le pardon qu'il nous offre. Dieu aurait eu tous les arguments pour faire état de son infinie supériorité par rapport à nous et pour exercer une pression pour asseoir son autorité. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, c'est pas l'angle qu'il a choisi de prendre pour venir à notre rencontre. Pourtant, il n'aurait eu aucune difficulté à montrer à quel point nous sommes dévoyés, à quel point nous sommes éloignés de lui par moments, résistant au bien et enclin au mal, attachés à servir nos propres intérêts en premier ou à être nos propres maîtres. Offrir le pardon, c'est la manière dont Dieu a souhaité préparer notre rencontre. En commençant par un cadeau, un don immérité, il vient nous dire « Eh, le pardon vous est offert. La table est dressée, je vous attends. À vous de venir à ma rencontre maintenant. » Je vais le redire, mais les obstacles, ce n'est pas vous, ce n'est pas lui qui va les dresser entre lui et nous. La voie, elle est libre. Le chemin est tracé. Bien qu'infiniment supérieur, Dieu a fait le choix de la vulnérabilité, de la proximité, de l'intimité pour préparer sa rencontre avec nous. Et c'est pour ça que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Il ne l'a pas simplement dit, il l'a démontré. Dieu n'a pas eu peur d'être démonstratif en amour. Reprenons notre machine à voyager dans le temps. Cette rencontre, elle ne s'est pas faite à l'arrache. Elle a été préparée déjà depuis les temps anciens, depuis des millénaires. Sa parole et tout ce que Dieu révèle de sa personne et ses intentions le démontrent. Revenons même au commencement, puisque c'est là que nous amène le chemin de l'Avent. C'est souvent un texte qui est lu lors des liturgies du premier dimanche de l'Avent. C'est le texte dans Genèse 3 au verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi, le serpent, et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce verset est comme un premier panneau indicateur qui nous renvoie au message de l'Évangile. Le plan de Dieu était mystérieux, voilé, mais la méthode était déjà annoncée depuis bien longtemps. Le salut, la victoire finale sur le mal viendrait de la descendance de la femme par un homme. Cette méthode s'est précisée au long de l'histoire de l'humanité, à travers les prophètes, jusqu'à être pleinement révélée en Dieu qui s'est fait homme, fruit de cette descendance. Et le Verbe, la parole, présente depuis toute éternité, s'est faite chair, comme en parle l'apôtre Jean. Le Dieu d'éternité se serait-il incarné ? Se serait-il rendu à ce point vulnérable, petit, est-ce que je pourrais dire ridicule ? Ouais, parce que c'est ridicule que l'infiniment grand qu'il est s'abaisse à être un être charnel, à être un être humain, à se corrompre d'une telle sorte. Et certains diront même que c'est une honte. Une vierge enceinte, Marie, adolescente d'un village de Judée, ce père charpentier, mais c'est quoi ça ? Quel statut social ? Quel environnement ? Une naissance dans des conditions misérables. Mais tel était le plan incroyable de Dieu. Et il fallait ça pour renverser toutes nos certitudes, tout notre orgueil, et saisir la profondeur de l'amour de Dieu. C'est Pierre, lors de son fameux discours embrasé de la Pentecôte, qui dira dans Actes 2, à partir du verset 23, « Israélites, écoutez ces paroles !» J'ai envie de dire « Strasbourgeois, écoutez ces paroles !» Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le voyez vous-même. Cet homme vous a été livré selon le projet et la préscience de Dieu. Ce n'est pas du rafistolage, ce n'est pas une histoire préfabriquée par une bande d'illuminés en quête d'une figure messianique. C'est le plan parfait de Dieu qui émane de toute la révélation que nous avons de lui. Dieu s'est montré sous une condition des plus vulnérables. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il s'est fait homme, déjà là c'est scandaleux. On se rappelle à Noël de la venue du Sauveur en connaissant qui a connu la même fragilité que nous. Il a été un petit bébé. Personne ne pourra jamais se comparer à lui en termes d'humilité. Il y a des hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont tout donné, qui ont livré leur vie pour servir les plus pauvres, les exclus, pour rendre la justice. Mais personne ne pourra jamais comprendre la manière dont Jésus s'est dépouillé, s'est vidé de lui-même, s'est détaché de tous ses atours, ses prérogatives divines pour venir jusqu'à nous. Et là, je n'ai pas d'illustration à donner. Je pourrais dire, c'est comme quelqu'un qui roule en Maserati un jour et puis qui roule en Kangoo le lendemain. Moi, j'aime bien les Kangoo, il n'y a pas de problème, c'est pratique. Mais où c'est avoir la fortune et le pouvoir d'Elon Musk et devenir Monsieur Tout-le-Monde le lendemain. Mais je pourrais te donner toutes les images de dépouillement, de rabaissement. Il n'y a rien qui peut être comparable à la manière dont Jésus s'est dépouillé, dont la manière dont le degré de renoncement dont il a fait preuve, le sacrifice qui a été le sien. Personne ne le saura jamais d'ailleurs. Voilà, on aura peut-être un plus d'indices quand on le verra tel qu'il est dans la gloire. Mais là, aujourd'hui, personne ne peut imaginer le Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qui s'est abaissé jusqu'à nous. Il a souffert, il a été méprisé, allant jusqu'à la mort de la croix, qui est un scandale. Mais il est ressuscité, il est vivant et il revient. Il y a un cri qui traverse les âges et qui résonne dans notre présent. L'apôtre Paul écrivait ces paroles dans 2 Corinthiens 5, au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je saute un petit peu. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est le message de Noël. Par un homme, le péché est entré dans le monde, et par un seul homme, le don de la grâce et du pardon nous a été fait en Jésus-Christ. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Voilà ce que Dieu a fait pour que nous puissions le rencontrer, pour que cette rencontre soit possible. Il n'y a aucun obstacle de son côté à cette rencontre, si ce n'est les obstacles que nous mettons nous-mêmes. En venant jusqu'à nous, il a réduit à néant tout ce qui nous séparait de lui. Et si on profitait, si tu profitais de ce moment de l'avant pour le rencontrer tout à nouveau, vraiment. Lui, le prince des cieux, il s'est fait homme, il l'a fait pour nous montrer à quel point il nous aime.
Terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujet de joie, car cette promesse, ce don du ciel vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en cœur, car dans les tables si humblement le roi est. Thank you.
ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons.
Roi de gloire,
avec joie chanter.
On a allumé notre première bougie, on va allumer la seconde. La deuxième bougie symbolise la foi, l'espérance, comme celle qui a animé les patriarches, à l'instar d'Abraham. C'est par la foi, nous dit Hébreux 11, qu'Abraham a obéi lorsque Dieu lui a demandé de quitter sa patrie, sa terre natale, pour aller vers un pays étranger, le pays qu'il lui avait promis. Et Abraham, les autres patriarches, avaient cette idée dans la tête que cette vision, cette projection de dire qu'il y a un projet de Dieu qui nous dépasse, une autre cité que lui seul allait pouvoir établir, instaurer. C'est C.S. Lewis qui dit, alors je paraphrase, qui disait que si ce monde ne répond pas aux aspirations profondes de l'homme, c'est qu'il n'appartient pas à ce monde. Et effectivement, s'il y a toujours cette insatisfaction et que l'homme aspire à quelque chose d'autre, de plus grand que lui, ben, c'est peut-être qu'il y a autre chose, justement. Le temps de l'Avent nous amène à nous replacer dans une attitude d'humilité qui nous amène à espérer la venue du Seigneur et à crier « Oui, nous sommes insatisfaits, on ne peut pas se satisfaire de ça. Nous avons besoin de toi. Viens à notre secours. Viens dans nos vies. » Toi, Seigneur, pas moi. Toi, Seigneur, tu viens à mon secours. Toi, Seigneur, tu as pris sur toi mes souffrances et mes maladies. Toi, Seigneur, tu sécheras un jour mes larmes pour toujours. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances. Toi, Seigneur, tu prends soin de mon âme et tu la restaures. Toi, Seigneur, tu combles mon cœur et satisfais mes besoins les plus profonds. Toi, Seigneur, tu as des projets éternels qui me dépassent complètement. L'Avent nous présente un cadeau, la repentance. La repentance nous amène à dire, justement, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'espère en toi. Tout en moi tend vers toi, car tu es mon seul bien, tu es mon seul espoir. Alors, pas facile d'affronter nos ténèbres pour laisser la lumière de Christ éclairer chaque zone d'ombre de nos vies. Pas facile de reconnaître notre besoin d'être sauvés, notre besoin de changer. Souvent, on l'étouffe. Vous connaissez cette citation de Blaise Pascal, certainement, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » La suite dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » J'avais plus en tête la seconde partie de la phrase. Notre problème est peut-être de ne pas laisser place à ce vide et de faire en sorte que ce vide prenne toutes les formes sauf celle de Dieu. Nous, les êtres humains, on a un travers, on a cette manie d'encombrer nos âmes de toutes sortes de choses. Le plaisir, posséder, assouvir notre besoin de reconnaissance. Alors, ce n'est pas des choses... avoir des choses, se faire plaisir, c'est pas des choses qui sont mal, mais là je parle d'encombrement, de ce qui vient encombrer nos âmes. C'est comme vouloir faire rentrer une grande armoire dans une Twingo. Je parle des voitures, je sais pas pourquoi. J'ai rien contre les Twingo, Anne, si tu nous écoutes. Alors, en forçant, ça va passer, mais c'est pas satisfaisant, vous voyez. Donc là, c'est pareil dans nos cœurs, dans nos vies. N'ayons pas peur de désencombrer nos cœurs et de faire de la place à ce vide, parce qu'il y a un vide. En effet, comme ça, on a des aspirations plus hautes qui nous dépassent. Et laissons-nous remplir de la présence de Dieu et non pas par autre chose. Nous ne pouvons accueillir la lumière du monde en fermant les yeux sur qui nous sommes, ce que nous sommes. L'avant, c'est un temps de vulnérabilité. Ouais, vous allez me dire, on n'est pas des fragiles. Hein. Eh bien si, devant Dieu, on est des fragiles et on doit le reconnaître, c'est important. C'est même indispensable. Alors là, tu peux en profiter de ce temps de l'Avent, on peut en profiter pour vivre ce temps d'humilité, de repentance, d'entrer en nous-mêmes. Et là, on va pouvoir vivre le renouvellement, vraiment la plénitude que seul Dieu peut apporter. L'Avent est un temps de tristesse lumineuse. L'Avent est un temps de tristesse lumineuse. C'est pas de moi, mais c'est beau. C'est beau. On espère, on attend la promesse de la venue de Dieu par sa présence, l'action de son esprit, et on cultive cette insatisfaction. C'est doux, amer. Vous voyez ? Il y a à la fois le bien que ça nous fait, et en même temps, la présence de Dieu, elle vient nous déranger sur des choses qui ont besoin d'être amenées au pied du Seigneur. Et ça, c'est une bonne chose. On peut dire encore aujourd'hui, j'ai besoin de toi, Seigneur, vraiment viens dans ma vie. Dieu est un Dieu de simplicité. On voit dans la manière dont il est venu jusqu'à nous. À Noël, enlevons quelques instants de nos cœurs, toutes les guirlandes, les décos, nos artifices, nos apparats, tout ce qui sert à rien, toutes nos certitudes, nos jugements, toutes nos suffisances, et préparons notre rencontre, préparons le chemin qui nous mène à la présence de Dieu. Enlevons les encombrants. C'est dans la simplicité et le dépouillement qu'apparaissent nos vrais besoins, à condition encore qu'on ne les balaye pas d'un revers de la main, qu'on ne les masque pas. Il est le Christ, appelé aussi Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Que ce soit vraiment le soupir de nos cœurs. Oh, viens bientôt Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons tellement besoin de toi.
Oh, 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 oh
Et allumons notre troisième bougie. La troisième bougie symbolise la joie. Moi, je vous ai parlé d'attente, de repentance, d'introspection, d'humilité. La troisième bougie, c'est le symbole de la joie. Allez, question pour un champion. Est-ce que vous arrivez à traduire le latin « Gaudete in domino semper » ? Allez, les collégiens là qui ont fait du latin là. Les amateurs de musique médiévale ou baroque peut-être le savent. J'ai pensé à vous quand j'ai préparé ça. Ça veut dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours ». Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est dans la liturgie traditionnelle, c'est le dimanche du Gaudete. Voilà, réjouissez-vous. Alors justement, j'ai découvert aussi d'autres traditions, d'autres pratiques. Hein. Donc j'ai écouté le Gaudete. Il y en a plusieurs. C'est un chant médiéval en latin et qui ne me quitte plus depuis plusieurs jours. Alors c'est aussi efficace que Baby Shark, mais en plus agréable quand même. Hein. Voilà. Gaudete, Gaudete, Christus, est natus. Donc j'ai pensé à nos amateurs, amatrices de musique médiévale, baroque. Je me suis dit que ce serait super avec la flûte à bec. Bref, l'avant, ce sont aussi des réjouissances, l'expression de la joie. Dans la liturgie, il y a souvent des textes, des psaumes de David qui sont lus à ce moment-là. Et on se rappelle aussi de David qui s'est réjoui, qui a loué le Seigneur au moment du retour de l'Arche de l'Alliance dans Jérusalem. Voilà, c'était un temps de joie pour lui. Il a dansé, il a sauté de joie, ça lui a même valu des moqueries. Il a, voilà, sans réserve, il a adoré, il a loué Dieu à ce moment-là. L'Arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu qui revenait, qui était proche. Et c'est la joie de sa présence, mais aussi la joie qui découle de sa descendance qui assurait à travers la venue du Messie qui allait arriver un jour. Donc David se réjouissait dans cette perspective. Jésus est appelé fils de Dieu, il est aussi appelé fils de David. Et lors du troisième dimanche de l'Avent, il y a souvent cette lecture qui est faite du psaume 16. Je vais en lire une partie, qui a vraiment une portée prophétique. « J'ai constamment l'Éternel devant moi. » Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlée. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. David avait cette vision qu'il ne mourra pas car à travers sa descendance, la mort sera vaincue. Et elle n'aura plus d'emprise sur lui. Sa vie ne s'arrête pas à son passage sur terre. Un jour, la mort ne sera plus. Et par la venue de son Sauveur, il jouira de la vie éternelle. Et c'est la destinée de chacun qui se tourne vers Christ. Réjouissons-nous, car il y a plus que ce que nos sens peuvent percevoir aujourd'hui, plus que ce que nos yeux peuvent voir. Il y a le ici, le maintenant, où Dieu veut te rencontrer et te faire connaître sa joie. Celle-ci nous dépasse complètement, elle dépasse l'entendement. Elle est profonde, elle est rassasiante. Elle ne peut se trouver que dans la présence de Dieu. Réjouissez-vous toujours. Comme David, adorons-le sans réserve. Proclamons sa grandeur, sa majesté, sa sainteté, sa victoire sur la mort, qui est la source de notre joie.
Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, tu es très saint, à jamais tu es saint, tout ton peuple. Tu es saint, Dieu d'éternité.
Nous allons allumer notre quatrième et dernière bougie. Elle nous amène à faire un bond dans le futur, puisqu'elle symbolise le règne de justice et de paix que Christ va amener. Elle est annoncée par les prophètes depuis bien longtemps, par Ésaïe, Jérémie, Zacharie, Michée, Malachie, Daniel. Les prophètes ont annoncé ce règne de paix et de justice après lequel toute la création soupire. Et là, c'est le climax de l'Avent. C'est à la fois le fil conducteur de ce temps de l'Avent et le point culminant, la venue du Seigneur, qui a déjà eu lieu en partie, et qui s'accomplira pleinement à son retour. Vous allez peut-être étonné, mais à l'origine, c'est vraiment le sujet principal de cette période de l'Avent. Nous nous rappelons que nous sommes dans l'attente du retour de Christ qui va revenir pour établir un règne de paix et de justice. Au présent, nous vivons la victoire de Jésus d'une manière intérieure, par la grâce qu'il répand dans nos cœurs, qui nous aide à toucher du doigt les réalités du ciel. C'est un avant-goût, ce sont les prémices, les arts que le Seigneur nous donne sur la réalité de sa victoire future. Mais un jour, et ça c'est notre avenir, nous vivrons la victoire totale de Jésus qui s'imposera de manière extérieure à travers sa venue glorieuse, visible aux yeux de tous. Adventus, on fait encore un peu de latin, hein, duquel vient le mot avant, ça on l'avait déjà vu. Hein. C'est l'équivalent du mot grec qui est utilisé, donc l'équivalent grec pardon, qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot parousia. Parousia qui signifie lui aussi venu, arrivé. Ça peut aussi signifier la présence réelle, effective, active, en opposition à l'absence. Quand on parle de parousia aussi dans le grec. Ça faisait référence à la venue, la célébration de l'arrivée d'un personnage éminent, de manière dans un cortège triomphal. On pouvait parler de parousia religieuse. Il y avait des processions pour les déesses, voilà, pour célébrer le culte d'une déesse, d'un dieu. Il y avait la parousia politique aussi, en faisant référence à l'arrivée en cortège d'un dignitaire, d'un empereur, d'un général qui a vaincu sur le champ de bataille. Et c'est ce mot-là qui a été repris par les chrétiens pour donner ce terme, la parousie, le terme théologique qui parle de la venue de Dieu. Et le Nouveau Testament, il est empreint vraiment de l'espérance du retour de Jésus de manière imminente. Imaginez-vous les premiers chrétiens. Jésus est monté au ciel et il a dit qu'il revient bientôt. Ben bientôt, c'est quand? C'est dans une semaine, dans 40 jours, dans 3 mois, dans un an. Donc ils étaient dans cette attente. Ça pouvait survenir à n'importe quel moment. Et les textes les plus récemment écrits dans le Nouveau Testament retranscrivent ce côté de l'arrivée pressante, imminente de Jésus. Les années ont passé. Et les premiers disciples, ils sont morts, hein. Voilà. Ils sont morts, voilà. Et mince, toujours pas de Jésus qui revient. Et là, les apôtres vont commencer à encourager les chrétiens à continuer d'espérer et attendre avec patience le retour de Jésus. Et je pense qu'ils n'auraient jamais pu imaginer que 2000 ans plus tard, on attendait encore le retour de Jésus. Pour eux, je pense qu'ils s'attendaient vraiment à une venue là tout de suite. Mais rappelons-nous combien la première venue de Jésus a été attendue, la naissance de Jésus, elle a été attendue déjà pendant des milliers d'années. L'attente était longue, mais la promesse s'est accomplie, et la promesse s'accomplira. On le voit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, où les années ont passé, et où il encourage les croyants à ne pas se laisser décourager dans l'attente, ne pas se laisser déstabiliser par les moqueries aussi. Alors je lis, dans 2 Pierre 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. » Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Mais où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » Autrement dit, les uns les autres y viendront dire « Mais c'est quoi cette histoire ? Qu'espérez-vous encore ? Rien n'a changé depuis la nuit des temps. À quoi vous attendez-vous ? » Et peut-être que c'est ce qu'on t'a dit. On t'a peut-être dit « À quoi t'attends-tu encore de ton Dieu ?» Tu vois bien que ton Dieu t'a laissé tomber. Il n'y a rien. Il ne fera plus rien pour toi. Là, je vais lire au verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Bon, ça fait du bien. Ouais. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est vrai. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si la réalisation n'est pas encore là, l'attente n'est pourtant pas inutile. C'est ce que nous dit ce texte. Elle a du sens et Dieu en maîtrise les raisons. Donc peut-être que tu es dans une situation d'attente, et nous sommes tous dans cette situation d'attente que Jésus établisse définitivement un règne de paix et de justice. Mais si tu te trouves dans cette situation, prends courage, car ton Dieu ne t'abandonnera pas et il vient à toi. C'est le message de l'Avent, Dieu qui vient à nous. Une des réponses à la patience et au découragement, c'est de considérer l'attente comme une bénédiction. Voilà, j'ai dit ça, voilà, tout est dit. Je sais que cela peut paraître absurde selon nos considérations, mais c'est un principe divin. Pierre dira un peu plus loin dans ce même passage, « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Dans ce temps d'attente, nous pouvons venir nous abreuver de sa grâce, de son pardon. Nous pouvons accepter le salut, nous pouvons accepter la vie nouvelle qu'il nous offre. On peut vivre un renouveau. Et une autre réponse à la patience et au découragement, c'est aussi pour cela qu'ont été instaurées les fêtes liturgiques, c'est de nourrir notre histoire en tant qu'Église, en tant que disciples, se rafraîchir la mémoire ensemble sur toutes les manières dont Dieu s'est déjà révélé. Toutes les merveilles qu'il a déjà accomplies, toutes les manifestations de son amour envers nous. Nous avons besoin de nous rappeler que nous ne sommes et que nous ne serons jamais abandonnés. Jésus est venu jusqu'à nous, il est présent aujourd'hui, dans nos cœurs par son esprit, mais il revient aussi bientôt. Là aussi, ce n'est pas de moi, mais c'est très beau. Garder sa parole en mémoire en la faisant monter jusqu'à nos lèvres, là, quand on le dit, on le proclame, pour qu'elle devienne force motrice dans nos vies. Donc c'est ensemble qu'on garde sa parole, qu'on chérit les promesses de Dieu, qu'on nourrit cette espérance, qu'on nourrit notre foi, pour que ça devienne moteur dans notre vie. Et c'est ce qu'on vit ensemble dans ce temps de l'Avent, dans ces fêtes de Noël. Pour conclure, Dieu a absolument tout mis en œuvre pour pouvoir favoriser une rencontre avec nous, avec toi. Tout a été accompli pour que ce soit possible. Il n'y a aucune entrave, aucun obstacle, si ce n'est ceux que toi tu mets. Il n'a pas choisi les honneurs, donc on a une couronne de l'Avent. La première couronne que Dieu a choisie, c'est laquelle ? C'est la couronne de souffrance, la couronne d'épines. Il n'a pas choisi une couronne ornée de pierres précieuses, c'est celle-là qu'il a choisie. Parce que lui seul pouvait porter le poids de nos fautes, le poids de nos péchés, nous offrir le pardon. C'était à ce prix-là. Jésus a choisi une couronne d'épines pour un temps précis, à Golgotha. Aujourd'hui, est-ce qu'il a toujours cette couronne ? Non, il n'a pas la même couronne. Il porte la couronne du souverain, du seigneur des seigneurs, du roi des rois. Et qu'on le veuille ou non, il règne. Ça ne dépend pas de nous. Il règne, il est souverain, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais on a ce choix de pouvoir faire cette rencontre, de dire « Seigneur, j'ai tellement, tellement besoin de toi ». C'est vrai qu'il y a cette insatisfaction, ce manque, ce vide, et je sais que toi seul peux le combler. Mais pour que sa lumière puisse pénétrer dans nos vies, au plus profond de nos cœurs, il faut lui donner accès aux obscurités de nos vies. Un jour, il n'y aura plus d'avant. Un jour, il n'y aura plus cette période. Pourquoi ? Parce que Jésus sera là, d'une manière définitive, il aura établi son règne. Ce jour-là, il n'y aura plus de foi, puisque tout se sera concrétisé. Il n'y aura plus d'espérance, puisqu'il n'y aura plus rien à attendre, plus rien à espérer, puisque tout sera établi, tout sera pleinement accompli. Aujourd'hui, nous sommes dans cette attente, et l'Avent nous invite à une rencontre qui n'a de comparaison avec aucune autre, celle avec Jésus-Christ. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de profiter de cette occasion qui m'est donnée d'entrer dans la présence du roi des rois, de la savourer, de la redécouvrir. Et j'ai pas envie d'avoir peur de lui dire « Seigneur, viens à mon secours. Viens éclairer mon obscurité, j'ai besoin de toi, je le reconnais. » On va le chanter ensemble. On va prendre ce chant qui dit « Peuple à genoux, attends ta délivrance. » L'Avent, la préparation de Noël, c'est cette opportunité unique que Dieu nous donne de venir à sa rencontre. Tout est prêt, tout est mis à disposition pour que ce soit possible. Alors chantons ensemble que nous avons besoin de lui et plaçons-nous au bon endroit.
arrivons ce matin à un moment très important. On peut rester debout dans la présence de Dieu. On arrive à un moment où l'avant est décliné depuis tout ce temps de Noël pour arriver à ce moment précis où l'Église se réunit pour des personnes ce matin que Dieu appelle à faire une rencontre spirituelle personnelle avec eux. Et là, les enfants, les adolescents, je vous adresse aussi ce message du cœur de Dieu ce matin. Jésus n'est pas simplement un roi avec une couronne, c'est un roi avec deux couronnes. La couronne d'épines et la couronne d'autorité. Et Jésus nous appelle, Jésus appelle quelqu'un ce matin à venir épancher son cœur devant Dieu. D'une manière spirituelle de dire, ce Jésus dont j'ai entendu parler ce matin, ce Jésus que l'avant me témoigne ce matin, je veux le voir comme celui qui a la couronne d'épines et celui qui a la couronne d'autorité. C'est pour ça que l'Église est rassemblée, pour annoncer ce message ce matin. Sinon, il n'y a pas de sens pour nous, on aurait fait autre chose de notre vie. Mais on voulait, en tant qu'Église ce matin, témoigner à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui connaît peu Jésus, que Jésus l'aime et qu'il a donné sa vie pour toi. Alors si l'Église est d'accord avec cette proclamation, est-ce que tu peux acclamer Jésus et témoigner que Jésus est vivant, que Jésus est vivant, que Jésus est mort à la croix pour toi, que Jésus est mort à la croix pour toi. Que Jésus a pris la couronne d'épines pour toi. Jésus a pris cette couronne d'épines et il est mort à la croix. Et ce matin, il parle à la porte de ton cœur. Et il y a un ado ici qui a besoin de l'entendre. Il y a un enfant ici qui a besoin de l'entendre. Il y a un papy peut-être ou une mamie qui a besoin de l'entendre. Il y a un papa qui a besoin de l'entendre. Il y a une maman qui a besoin de l'entendre. Il y a un adulte qui a besoin de l'entendre. Il y a un jeune ici dans ce lieu qui a besoin de l'entendre. Il y a un frère, une sœur, un cousin, une cousine qui a besoin de l'entendre ce matin. Alors ce que nous allons faire ensemble, nous, Église, nous voudrions vous bénir et prier pour vous. Si vous voulez faire cette démarche de dire « Oh, viens Emmanuel, viens Jésus, viens dans ma vie ce matin. » Nous voudrions être cette Église, ce jour est tellement important qu'il prie pour vous. Alors je vais vous inviter à incliner vos fronts, fermer vos yeux ce matin. Qu'on puisse être dans un temps vraiment spirituellement profond, intérieur. Un temps où on se focalise sur la louange et sur la personne de Dieu. Et même vous, les jeunes, pouvez faire cette démarche ce matin. Si ce matin, le chant, le message de l'Évangile, le message de l'avant a trouvé une résonance dans ton cœur, tu réalises que tu es loin de Dieu, tu réalises que tu es pécheur, c'est-à-dire que ta vie n'est pas alignée avec la sainteté de Dieu, le pardon de Dieu, la lumière de Dieu, la joie de Dieu. Tu sais qu'il y a un vide et tu as mis beaucoup de choses, mais maintenant tu es en train de te vider de toutes ces guirlandes de la vie. Et tu te dis, mais mince, quand je regarde, ça me fait peur parce que je suis vide. Mon existence terrestre, ma vie n'a pas de sens profondément. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu veut remplir ta vie. Et si tu as envie de faire cette réconciliation, de dire, Jésus, je suis pécheur, Jésus, je suis loin de toi, Jésus, j'ai besoin que la couronne d'épines soit manifestée au travers du salut de Jésus-Christ, au travers de la mort de Jésus-Christ. J'ai besoin que ta royauté guérisse mon être, guérisse mon âme, purifie ma vie. Si tu es celui qui a besoin du Seigneur aux deux couronnes ce matin, tu peux lever ta main avec foi et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu peux lever cette main, tu peux être un ado, un enfant, tu peux être un adulte dans ce lieu, tu peux dire, Jésus, voilà, maintenant je me vide dans cette période de l'avant et je te dis, j'ai besoin de toi, je te donne ma vie. Il y a peut-être un chrétien qui a besoin de renouveler aussi sa marche avec le Seigneur, renouveler en lui cette vie spirituelle. Tu peux aussi lever cette main parce que ton Seigneur est le Seigneur aux deux couronnes. Alors ce matin, celui qui a besoin de dire, Jésus, viens dans ma vie, viens Emmanuel, lève ta main, n'aie pas peur de lever ta main. C'est un acte de foi de dire, hé, Seigneur, je suis là, mon âme est là. Et maintenant, je vais inviter toute l'Église, celles et ceux qui le veulent, à être dans une intention de prière en levant aussi vos mains vers le ciel maintenant. Et on va prier pour toutes les personnes qui ont fait une démarche spirituelle avec Dieu. Et on va demander au Seigneur de se manifester. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui ont levé leurs mains et qui confessent maintenant, Emmanuel, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, toi le couronné d'épines, toi le couronné glorieux, toi le sauveur, toi le Messie, toi qui peux remplir mon vide spirituel, je lève la main, j'ai besoin de toi, je confesse je confesse que j'ai besoin de toi. Toutes ces personnes qui ont levé la main en église ce matin, nous prions qu'au nom de Jésus, les chaînes du péché tombent maintenant. Nous prions qu'au nom de Jésus, l'esclavage du péché, tout ce qui nous enferme dans la noirceur de nos vies, tout ce qui est lourd en nous, tout ce qui nous empêche de pouvoir avoir une relation avec Dieu, que toutes ces choses tombent maintenant. Par la puissance du roi, la couronne d'épines. Il a été élevé, il a dit « Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi » et tu es en train d'en attirer ce matin. Saint-Esprit, fais ton œuvre de nouvelle naissance. Saint-Esprit, présence de Dieu, nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de remplir et de donner à quelqu'un un nouveau départ spirituel, qu'il puisse être complètement libéré du poids de son péché pour entrer dans la joie de l'Éternel, la joie de son Père Céleste. Fais le miracle de Noël dans ce lieu ce matin, dans la vie d'un enfant, d'un adolescent. Seigneur, nous attendons miracle de Noël dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est notre prière. C'est pour ça que nous sommes l'Église, pour annoncer Jésus. Et tu as dit, Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alors merci parce que ce matin, tu pardonnes à celui qui demande pardon. Tu donnes de la joie à celui qui se dit fatigué intérieurement. Tu donnes de l'espérance à celui qui avait peur de la mort maintenant. Tu le remplis de joie et d'espérance. Tu viens relever celui qui est chargé. Tu viens guérir un cœur qui est brisé. Tu commences une œuvre de guérison dans la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, merci. Nous te le demandons toutes ces choses. Et nous voulons te donner toute la gloire. Parce que c'est toi le roi, Seigneur. C'est toi le roi vainqueur. C'est toi le Dieu d'éternité. Est-ce qu'une dernière fois, dans ce lieu, on peut se réjouir pour toutes les personnes qui ont fait une démarche? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation qu'il mérite ce matin? L'acclamation du roi sauveur, du roi guéri. Jésus, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire, Jésus, à toi toute la gloire, Seigneur. Applaudir, je crois, le Rédempteur dans ce lieu, Jésus. Ben, nous sommes passionnés du message de l'Évangile, on est passionnés de Dieu. Voilà, peut-être que l'Église, encore en cette période de Noël, pourrait peut-être, pour vous qui êtes disciples de Jésus, peut-être témoigner juste de dire, mais oui, je crois que Jésus est vivant. Est-ce qu'il y en a qui croient? Et levez juste la main et dites, oui, je crois que Jésus est vivant en 2024. Il a touché ma vie, il a changé ma vie. Et nous voulons simplement encore partager ce message de l'Évangile au travers de toute notre vie, même si c'est imparfaitement, parce que parfois, il nous arrive aussi de pas faire les choses comme on aimerait qu'on les fasse, mais punaise, qu'est-ce qu'on aime Jésus ! Qu'est-ce qu'on aime le Seigneur ! On est très heureux d'avoir vécu ce temps de célébration de Noël avec vous. Premier point qu'on aimerait faire, juste avant qu'on puisse se quitter les uns les autres pour ces temps, pour certains ça sera des temps en famille, pour d'autres ce sera des temps peut-être en un cercle un peu plus restreint ou autre, et on voudrait juste en tant qu'église prier pour chacune et chacun d'entre vous pour cette période de Noël, de Nouvel An, pour que Dieu dans cette période, pour certains c'est des périodes de joie, de repos, vous attendiez ça avec tellement d'impatience, et pour d'autres vous craignez ce moment. Et vous êtes là à se dire, mais punaise, je n'aime pas cette période. Nous voudrions, nous, en tant qu'Église, juste prier pour vous. Nous voulons participer, être cette petite pierre qui vous permette d'être juste encouragé et de vous souvenir que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. et il le délivre de toutes ses détresses. Juste prendre ce temps ensemble, et je vais me faire le porte-parole, mais vous aussi en église, priez avec moi pour ces périodes de Noël, et il y aura encore quelques partages qu'on aimerait vous donner avant la fin de cette célébration. Seigneur, nous te prions pour les personnes en ligne qui nous ont suivis, nous te prions pour les personnes qui sont ici, la communauté de l'Épi rassemblée, les amis, les enfants, les ados, les adultes. Nous voulons te prier que cette saison de fin d'année soit l'occasion de se rappeler que tu es le prince de la paix et que ta paix est véritable et que tu accompagnes chacun dans les repas familiaux, dans les temps, certains qui vont bosser pendant entre Noël et Nouvel An. Nous te prions vraiment pour qu'on soit renouvelés dans cette conscience que Jésus, tu es avec tes enfants, tu es avec ceux qui sont là à crier à toi. Oui, nous te prions pour des temps de guérison. Et prier particulièrement pour des temps de guérison au niveau familial, au niveau des relations. Que cette période puisse aider, Seigneur, à ce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit manifestée, s'il te plaît. Tu es venu réconcilier le monde avec toi-même, je te prie. Et on participe avec l'Église à prier pour la guérison des relations. Je te prie pour celles et ceux qui passent peut-être par des moments difficiles, que ce soit en ce moment par la santé ou autre. Nous prions que dans la communauté de l'Épi aussi, tu continues ton œuvre et que tu fasses ton œuvre pour prendre soin de ceux qui souffrent. Oui, nous te prions en tant qu'Église que tu continues à nous bâtir pour que nous ayons un cœur comme toi, les yeux fixés sur toi et qu'on puisse t'aimer et aimer notre prochain. On a encore besoin d'apprendre et c'est la prière de la communauté ce matin. Apprends-nous à t'aimer et à aimer notre prochain encore et encore pour 2025 si tu n'es pas revenu. Amen. Amen. Dans un instant, je vais inviter les enfants d'épisode. Pas maintenant, dans un instant. Je vais inviter tous les enfants qui sont à l'élémentaire, donc les 3 jusqu'à maternelle élémentaire, donc les 3, 11 ans, 10 ans, oh là là, pourtant j'avais voulu apprendre par cœur ça. Les 3, 10 ans, épisode, dans un instant à venir, je vais inviter quelques personnes à m'aider dans cette lourde tâche. Je vais demander à Julien s'il peut venir me donner un coup de main dans un instant. Je vais demander à Jérôme s'il peut me donner un coup de main. J'aurai encore besoin de 2 mamans pour me donner un coup de main dans un instant pour la distribution. Donc, les pré-ados, les between et les cadeaux, c'est pas pour vous ces cadeaux-là. Vous, le grand cadeau que vous avez, c'est moi qui vous dis qu'on vous aime au nom de l'Église, d'accord ? Ah, voilà, grand cadeau, Seigneur. Grand cadeau, Seigneur. On voulait juste honorer les enfants, ces courageux enfants à venir. Ce message ou cette célébration vous a quelque part interpellé. Nous avons un espace vide église pour vous, où vous pourrez dans un instant, juste à la sortie de cette grande salle, vous allez sur votre droite et vous allez voir un espace vide église. Et là, peut-être que vous voulez découvrir l'histoire de ce Seigneur à 2 couronnes. C'est la Bible qui en parle. Et on sera heureux si vous êtes là pour les ou la première fois. Et si vous avez été invité, la personne qui vous a invité, elle connaît cet espace vide église. Vous pourrez vous munir d'une Bible. On vous l'offre de tout notre cœur. C'est un cadeau pour vous. Vous voulez peut-être aller plus loin et peut-être en 2025, vous voulez raccrocher les wagons avec une communauté chrétienne. Bienvenue, on est là. On n'est pas parfait, mais on aime Jésus, on est l'Église de Jésus. Donc n'hésitez pas pour cette année 2025 à réenclencher quelque chose, on sera là. Donc toutes les informations sur la vie d'Église, vous l'avez aussi à l'espace vie d'Église. Au nom de toute l'équipe pastorale, du conseil spirituel, du conseil d'administration, nous prions pour vous, nous vous remercions pour votre fidélité toute cette année et on vous encourage encore à garder les yeux fixés sur Jésus. C'est lui le rémunérateur de notre foi. Amen. On va se lever encore une fois ensemble et on va finir en louange. Merci à l'équipe de louange, qu'on peut les remercier. Il y a des heures de travail derrière, l'équipe technique et tout. Merci beaucoup. L'accueil, toutes les personnes. Voilà, je vais inviter les parents à qui j'ai demandé. Les enfants, on va faire une petite barrière de protection et on va vérifier que vous n'êtes pas pré-ados, d'accord ? Et c'est moi qui vais vérifier. Non, non. Voilà, les parents, venez par ici. Que Dieu vous bénisse. Tous les enfants, papa, maman, emmenez vos enfants d'épisode. On veut vraiment les bénir ce matin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous restez en bas, vous ne montez pas sur l'estrade.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne. excelsis Deo.
Applaudir Seigneur. Bon, les enfants qui êtes là, on est un tout petit peu victime du succès du nombre d'enfants et des copains et tout ça peut-être. Donc on vous oublie pas, d'accord? Là, c'est une petite rupture de stock. Voilà, c'est une petite rupture de stock qui est arrivée. Donc comme vous êtes connectés à Épisode, on va trouver le moyen de continuer à vous bénir encore. On est vraiment désolé pour ça. À moins qu'il y a des grands qui ont volé des paquets qu'on n'avait pas vus. Non. En tout cas, les enfants, comme vous êtes connectés à Épisode, on fera tout pour que vous puissiez être bénis. D'accord? Désolé. On vous souhaite un bon retour à chacune et à chacun. Que Dieu vous bénisse et un grand merci au Seigneur encore.